Bonjour Xavier Marchand. Ce soir, vous nous présentez le spectacle Ponce Pilate, l'histoire qui bifurque. Donc, vous êtes à la mise en scène et vous avez adapté un texte de Roger Caillois. Alors, peut-être déjà nous dire qui est Roger Caillois et pourquoi vous avez eu envie de partir de ce texte et de faire un spectacle.
Roger Caillois est un écrivain maintenant, à mon sens, injustement oublié. Bon, qui a eu quand même son heure de gloire dans les années 60, puisqu'il a été élu à l'Académie française, il était académicien. Alors, c'est un auteur un peu bizarre et qu'on ne peut pas mettre dans une catégorie. Il a écrit sur des sujets extrêmement variés. Peut-être un de ses livres les plus connus est sur les pierres. C'était un grand amateur de pierres. Mais on lui doit aussi des livres sur les mythes et les hommes, sur les jeux. Il a fondé une revue avec Georges Bataille. C'était tout ce mouvement-là. C'est hélas maintenant un auteur assez peu lu et, à ma connaissance, jamais monté. Moi, j'ai connu ce texte un peu par hasard, puisque Louis Buñuel, le cinéaste, en parle dans son autobiographie. C'est ce qui m'a donné l'envie de voir à quoi ressemblait ce texte. Et j'ai été tout de suite assez charmé par cette écriture et par la façon dont Roger Caillois problématise cette fameuse journée où Ponce Pilate a la responsabilité de donner son accord pour que Jésus soit ou non crucifié. Bon, le personnage de Pilate, ceux qui sont chrétiens le connaissent, puisque c'est un nom qu'on entend chaque dimanche à la messe. C'est un nom, en tout cas, qui a traversé les âges, collé au fait que c'est un homme qui s'en est lavé les mains. Et Roger Caillois, disons, fouille un peu la personnalité de ce personnage, personnage d'ailleurs qui n'est pas le seul à avoir travaillé, puisqu'il y a aussi des grands auteurs comme Bouliakov. Dans le Maître Marguerite, il y a 4 chapitres où le diable vient raconter l'histoire de Ponce Pilate. Jean Grosjean a aussi écrit un Ponce Pilate. Anatole France a aussi écrit un Ponce Pilate. Claudel a écrit un texte dessus. Et récemment, 2 chercheurs, Giorgio Agamben, a écrit un Ponce Pilate et un autre qui est sorti. Et c'est très bizarre pourquoi, au moment où moi je me suis intéressé à ça, il se trouve qu'il y a plusieurs ouvrages qui sont sortis sur ce personnage éminemment complexe.
Et donc la particularité, vous, de votre mise en scène, c'est que vous avez décidé que Ponce Pilate soit représenté par une marionnette. Tous les autres personnages sont représentés par des marionnettes. Alors pourquoi ce choix? Et ensuite, pourquoi le choix de ces marionnettes précisément que vous avez choisies? Puisque les marionnettes, ce sont juste des têtes, en fait, avec des draps dessus.
Alors pour répondre à votre première question, l'idée des marionnettes est venue d'une interrogation très simple. Quand j'ai réfléchi à la distribution, je me suis demandé à qui j'allais bien pouvoir confier le rôle de Jésus. Voilà. Jésus est presque une construction historique et mentale et religieuse. Il en existe des milliers de représentations. C'est-à-dire toute la peinture s'attache à représenter la figure de Jésus. Il y a des Christs, par exemple des Zurbaranes, qui sont d'une magnifique beauté, et on a l'impression que de voir Jim Morrison. Et il y a d'autres Christs qui sont extrêmement douloureux, comme par exemple le Christ du retable d'Ischenheim. Donc, comment le représenter? Et je me suis dit que moi, qui ai visité pas mal de musées, qui a passé pas mal d'heures à la messe, je pense qu'en tant que spectateur, ça m'aurait plutôt fait un peu marrer de voir arriver un jeune homme de 33 ans un peu barbu. Et qu'au fond, je pense que je n'y aurais pas cru. Je me suis dit qu'il fallait absolument trouver une distance quelconque. Et de cette interrogation-là m'est venue l'idée, pour Jésus, d'en faire une marionnette. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi a priori les autres personnages ne seraient pas eux aussi des marionnettes? Moi, j'avais jamais fait de marionnette de ma vie. Et quand j'ai confié à une des comédiennes manipulatrices, Myriam Ellenbrock, dont j'avais vu un précédent travail, je lui ai dit, écoute, j'aimerais qu'on travaille ensemble et que tu m'aides à faire passer une audition. Quand elle a fait passer l'audition, elle avait apporté des têtes. Et au fond, en la regardant travailler, je me suis dit, mais au fond, pourquoi s'embêter avec des jambes, des bras et surtout une technique de manipulation que moi, je ne serais pas à même de régler. Alors, elle aurait pu le faire, mais je me suis rendu compte que on a vite essayé avec du texte et qu'au fond, ça suffisait. Et qu'en plus, autre problème, je ne le savais pas, c'est extrêmement rare que des marionnettistes aient à assumer des textes aussi littéraire et aussi long. Pour les trois marionnettistes qui sont présents sur scène, ils n'ont jamais fait ça de leur vie. Mais d'une certaine façon, ce n'est pas un spectacle de marionnettes. C'est un spectacle où les marionnettes nous ont servi à faire entendre ce texte. Donc pour eux, ça a été un travail très particulier, parce qu'ils n'ont pas pu utiliser leur même façon de faire.
Oui, alors on s'aperçoit que c'est aussi complexe finalement de penser cette mise en scène que la complexité qu'a imaginé Roger Caillois pour le personnage de Pilate finalement prendre sa décision. Il y a aussi beaucoup de monde sur scène, et j'ai envie de dire, c'est la sensation que j'ai eue, on a l'impression de voir pour la première fois tout ce que ça imbrique en termes théâtral, de la scénographie en passant par la fabrication des masques, les personnages, la musique aussi. Voilà, comment vous avez pensé tout ça? J'imagine que vous êtes entouré.
À partir du moment où j'ai décidé de faire ça avec des marionnettes, tout s'est résolu. Bon, de façon très pragmatique, les marionnettes ne sont pas des grandes marionnettes. Donc pour qu'on les voit, il faut des socles. Donc j'ai travaillé avec une scénographe, Julie Marais. Je lui ai dit, voilà, j'ai d'abord besoin qu'on voit ces marionnettes, que les marionnettistes puissent les manipuler à une certaine hauteur, parce qu'il y a des problèmes effectivement techniques, de difficultés de porter des marionnettes. Donc j'ai dit, il faut une surface. Ensuite, je savais qu'il y avait un certain nombre de lieux évoqués dans la pièce. Je lui ai dit, bah voilà, ce serait bien que cette surface, ces cubes, soient mobiles, de façon à pouvoir évoquer quelques éléments des lieux. Bon, et à partir de là, ça s'est décliné sur le plan de la scénographie. Je lui ai dit, bon, ces lieux, il faut les évoquer. Bon, il y a la prison en cul de Balfos dans laquelle est enfermé Judas, il y a le prétoire, il y a la chambre de Pilate. Et je lui ai dit, bon, les marionnettes sont des choses fausses, donc je lui ai demandé de tout traiter par le dessin. Et tout ce que vous avez vu, c'est-à-dire les fonds, ce ne sont que du dessin qu'on a ensuite travaillé sous forme de vidéo. C'est comme ça que ça s'est fait. Bon. Et la musique, c'est aussi un concours de circonstances. J'avais vu un formidable concert de ce clarinettiste qui s'appelle Yom à Marseille, et j'avais acheté son disque, et pendant que je travaillais, que je retapais toute l'adaptation, j'ai très souvent écouté ce disque. Et je me disais, mais c'est bizarre, parce que j'entendais bien cette musique avec ce texte-là. Il sait évidemment des sonorités Klemser, et il se trouve que, par le plus pur des hasards, il y a des morceaux qui sont tombés pile poil dans certains temps du texte. Quant à la complexité du texte, on sent bien, à cause de l'uchronie de la fin, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé de dévoiler, mais on sent bien que Roger Caillois, il avait cette idée-là dans la tête. Et c'est ce qui fait que ce récit a quelque chose, c'est presque comme une enquête autour d'une personnalité. Et il l'a écrit, je pense, je ne lui ai pas demandé, puisque je ne l'ai jamais rencontré, hélas, mais avec cette idée d'embarquer le lecteur, et nous, le spectateur, dans ce choix qu'il n'arrive pas à prendre. Et jusqu'à la fin du spectacle, jusqu'à cette scène de l'insomnie, il penche d'un côté, il penche de l'autre, il penche d'un côté, il penche de l'autre, et il n'y a que l'épilogue qui annonce quelle va être sa décision.
Oui, c'est ça, parce que l'idée, c'est de prendre une décision qui soit la plus juste possible, en fait.
Son âme et conscience, mais justement, ce dont parle ce texte-là, c'est que il y a la conscience et il y a la politique, et que ce sont deux choses qui parfois se marient très mal. Et d'ailleurs, il le dit très souvent. Il dit, est-ce qu'il faut sacrifier une multitude à la place d'un juste? Bon, les gens du Sanhédrin, donc le grand conseil juif de Jérusalem, savaient ce danger-là. Jésus était rentré, c'était la Pâque, et il avait été accueilli par une très nombreuse foule qui avait entendu ses prêches, donc les gens des campagnes qui venaient à Jérusalem, donc ces histoires d'Esséniens. Et c'est la raison pour laquelle les Juifs estiment que Jésus est un véritable danger à deux niveaux. D'abord, parce qu'il remet en cause, comme les Esséniens, l'occupation romaine. Et puis deuxièmement, les gens du Sanhédrin ont entendu que sur le plan dogmatique, il ne propose plus le Dieu unique, mais aussi la Sainte Trinité. Et donc la Sainte Trinité, c'est carrément une très grande évolution dogmatique. Et les gens du Sanhédrin ne sont pas des Esséniens, mais sont la branche du judaïsme qui fait de la politique avec les Romains. C'est les Romains qui nomment le grand prêtre. Donc c'est la frange du judaïsme qui fait des affaires avec les Romains, qui s'occupe de l'argent du temple. Bon. Et c'est pour ça qu'ils viennent demander très tôt matin que le Christ soit condamné, parce qu'ils se rendent bien compte que si jamais la population apprend qu'il est enfermé, il peut y avoir un mouvement de révolte et d'émeute, et que quand il y a un mouvement d'émeute, les Romains, et dans l'histoire, châtient ça de façon extrêmement violente. Donc ça, c'est l'aspect politique. Et ce à quoi est confronté Pilate, c'est qu'il sait que cet homme-là, en soi, n'a commis aucun crime. Donc il n'a pas à le faire condamner. C'est tout l'enjeu du texte.
Et puis il y a aussi le fait qu'il se pose des questions par rapport à lui-même, à son courage, et c'est aussi ça qui va faire pencher la balance, puisque finalement, sa décision, elle est aussi personnelle. Et même s'il prend en compte la politique et tout ce qui se passe, ça vient surtout de lui, comment il se considère lui-même finalement.
Comment il se considère lui-même par rapport à l'âge qu'il a, par rapport à sa situation qui n'est pas reluisante, par rapport à le rêve qu'a eu sa femme, qui lui dit que pourquoi est-ce qu'il faudrait faire condamner un juste qui en plus développe ce message d'amour. Et ce dont on se rend compte in fine dans la pièce, c'est qu'il va peut-être suivre l'avis de la seule qui lui dit il ne faut pas le faire condamner. Tous les autres, à des niveaux différents, pour des raisons différentes, et en particulier Judas, lui disent il faut faire condamner Jésus. Judas lui dit mais moi ce que j'ai fait, c'était dicté.
Oui,
c'est lui qui m'a dicté.
C'est une vision gnostique d'ailleurs peut-être.
C'est une vision qui est, bon, dans la Bible, il y a cette phrase où il dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-le vite. Donc on peut penser que Jésus savait vers quoi il allait et qu'il avait besoin d'en passer par ce mouvement extrême, qu'il avait besoin de la traîtrise de Judas. Et ce que vient dire Judas, alors ça je pense que c'est une vision de Roger Caillois, à pense Pilate, c'est que lui a assumé sa part de traîtrise et qu'il vient dire à Pilate qu'il faut qu'il assume sa part de lâcheté. Bon, ce qui est quand même assez formidable.
Ça nous amène dans des réflexions très très intéressantes.
Juste à un moment, on parle du fanatisme religieux et donc ça renvoie forcément à l'actualité d'aujourd'hui.
C'est pour répondre à votre première question. En fait, quand j'ai décidé de monter ce texte-là, je l'avais relu et je l'ai relu à peu près à la période des attentats de Paris. Bon, et évidemment, tout cet aspect du fanatisme religieux a trouvé un écho dans ce texte. D'une certaine façon, Judas est une figure du fanatisme. Les Sanhédrins sont eux aussi, d'une certaine façon, une forme d'image du fanatisme. Mais plus particulièrement Judas, hein, parce que lui, il dit que, quoi qu'il arrive, si Pilate ne prenait pas sa décision, lui, il l'aurait tué de ses propres mains. Voilà, pour qu'une religion apparaisse. Donc évidemment, il y a ça en filigrane dans ce texte-là. Et c'est un des éléments qui m'a vraiment donné envie de faire entendre et de faire découvrir ce texte-là.
Et on vous remercie et on vous souhaite bon vent pour la suite. Merci beaucoup.